Nous sommes dans une série sur le livre du prophète Michée. Ce que j'ai donné à cette prédication, c'est « Notre force est dans l'Esprit de Dieu pour condamner et lutter contre le péché, contre notre péché. » Je vous invite à réécouter la lecture de 4 versets au début du livre, les versets 2 à 5, chapitre 1. Écoutez, vous tous, peuple, prêtez attention aux terres, et vous tous qui vivez sur elles, le Seigneur, l'Éternel, sera témoin à charge contre vous. Le Seigneur va vous accuser depuis son sanctuaire. Voici que l'Éternel sort de sa présence, il va descendre, marcher sur les sommets, sur les hauteurs de la terre. Sous ses pas, les vallées se fendront au milieu, les montagnes fondront comme la cire au feu, comme de l'eau versée, coulant sur une pente. Et pourquoi tout cela? Écoutez bien, à cause de la rébellion des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Dès le début de son livre, Michée nous dit clairement que les enseignements du livre sont à écouter, à intégrer, à digérer par tous les peuples de la terre et donc par nous aussi, aujourd'hui à Veneux-les-Sablons, en 2020. Et l'enseignement principal de Michée, c'est que Dieu ne peut pas supporter le péché. Celui du peuple d'Israël, mentionné dans le livre de Michée, bien sûr, tout comme notre propre péché aujourd'hui dans nos vies. Et en particulier, l'accent est mis dans ce livre de Michée sur l'injustice sociale. Une autre remarque introductive, c'est que ce livre comprend un certain nombre de répétitions que l'on voit dans la structure qui est affichée. Vous voyez une question d'accusation et de menace avec alternance de promesses, à nouveau accusation, menace, promesse, et puis le thème du reste dont on parlera un peu plus tard, et puis à nouveau des menaces et à nouveau des promesses et à nouveau des accusations, et enfin des promesses encore. C'est une structure qui a son mérite pour nous enseigner, pour nous former, pour nous convaincre. Et c'est intéressant que cette répétition, on dit que c'est la base de la pédagogie, hein, elle est utile pour que nous puissions bien comprendre l'importance du péché. Et donc, nous allons maintenant passer au chapitre 3. Et moi, je dis, donc, chef de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, ne devriez-vous pas bien connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez la peau des membres de son peuple, de mon peuple, vous arrachez la chair qui couvre les os, vous dévorez leur chair, vous les dépecez, et vous leur brisez les os et les mettez en pièces, tout comme des morceaux que l'on met dans la marmite, oui, comme de la viande que l'on met dans le chaudron. Voilà pourquoi, quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas. Il restera loin d'eux à cause du mal qu'ils ont fait. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes qui égare mon peuple. Ils prédisent la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre. Et ils déclarent la guerre à qui ne remplit pas leur bouche. Vous serez dans la nuit sans avoir de vision. Ce seront les ténèbres, finies les prédictions. Oui, le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira pour eux. Ceux qui ont des révélations seront couverts de honte et les devins perdront la face. Ils se couvriront le visage car Dieu ne leur répondra pas. Verset 8. Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de courage pour dénoncer la révolte à Jacob et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef du peuple issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez le droit et qui corrompez la justice, qui bâtissez Sion en répandant le sang et Jérusalem par le crime. Ces chefs rendent leur jugement contre des pots de vin. Et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement. Et ces prophètes prédisent l'avenir par l'argent. Et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est pas au milieu de nous. Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. » Ainsi, aussi, notre faute, Sion sera labouré comme un champ et Jérusalem deviendra un tas de ruines. La montagne du temple sera une colline de broussailles. Dans ce chapitre, Michée cible deux catégories de personnes. Dans le tableau que vous avez, vous ne pouvez pas lire, j'imagine, mais c'est simplement pour que vous voyez, ce qui est en bleu concerne les chefs du peuple, à deux reprises. Ce qui est en vert concerne les faux prophètes. Et au centre, vous avez l'affirmation par Michée de sa propre résolution de dénoncer le péché grâce à l'Esprit de l'Éternel. C'est le centre du passage. À la fin du passage, vous avez l'affirmation de la punition de Dieu, qui est radicale, la destruction et la ruine. Alors voyons maintenant quelles sont les accusations contre les chefs du peuple. Il s'agit de reproches contre ceux qui gouvernent. Ouf, on est passé près. Même si on doit l'entendre, nous ne sommes donc pas concernés. Nous ne sommes pas, sauf erreur, je n'ai détecté aucun cortège de président public dans la salle. Donc, nous ne sommes pas concernés. Illusion. Nous ne sommes certes pas chefs du peuple, président de la République pour le Premier ministre, pour le président du département qu'on a pu avoir dans nos locaux une fois, et en Angleterre pour la reine d'Angleterre. Mais nous, ici en région parisienne, nous sommes peut-être chefs d'équipe à notre travail, nous sommes peut-être chefs de projet, chefs de famille, responsables d'équipe dans mon club de sport, responsables d'un groupe ou d'un service dans l'Église, peut-être même membres du conseil d'Église, peut-être même anciens, peut-être même pasteurs. Donc, peut-être que ces reproches pourrait peut-être aussi nous concerner. Donc voyons quels sont ces reproches. Ils méconnaissent le droit. Heureusement, nous sommes privilégiés, nous avons dans la salle une juriste éminente, donc pas de souci, nous sommes pour être rappelés à l'ordre. Ils méconnaissent le droit qu'ils devraient pourtant connaître. Les lois, les règlements, quand il y en a. Et les versets 9 et 11 disent même qu'ils détestent le droit. Pas bien, ça. Ils détestent le droit et ils corrompent la justice en rendant des jugements contre des pots de vin. Ça n'existe plus de nos jours, heureusement. Ensuite, on voit que dans ce passage, les chefs de peuple, les responsables, détestent le bien. Ils aiment le mal. Ils exploitent le peuple. Versets 2 et 3 et le verset 10. Donc, la méconnaissance du droit. On va approfondir un petit peu. La méconnaissance du droit. Lola. Ce ne peut pas être pour nous. Pas possible et pourtant. Quand nous biaisons avec le code de la route, et aussi que nous acceptons de rouler sans permis, ça n'arrive jamais, hein, ou alors sans assurance, ou sans contrôle technique, ou alors quand nous biaisons avec notre déclaration d'impôt, ou quand nous prenons des libertés avec le droit du travail en faisant appel ou en pratiquant le travail au noir, ou quand nous prenons des libertés avec nos déclarations sociales et administratives, ou quand nous biaisons avec notre offrande volontaire qui est due au Seigneur, et on pourrait rallonger la liste. Il n'y a pas que certaines personnes célèbres dont on parle régulièrement à la télé qui sont en décalage par rapport au droit. Ça peut aussi viser certains éléments de droit concernant nos églises même, avec le respect de la réglementation, avec le respect des personnes. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Et je suppose que nous ne sommes pas trop concernés aujourd'hui par les pots de vin. C'est une pratique que l'on doit proscrire, même si je sais que dans certains pays, c'est un passage obligé pour certaines formalités administratives. Il n'y a pas si longtemps que ça, pour franchir la frontière entre certains pays de l'Est, on a dû nous attendre des dizaines d'heures pour passer la frontière, alors que certains passaient, contournaient la file, rentraient dans une guérite, faisaient ce qu'il fallait pour pouvoir passer tout de suite et contourner les centaines de voitures qui attendaient. Mais il n'y a pas que là. Dieu a en horreur le contournement du droit avec l'aide de passe-droit, avec l'aide de pots de vin. Ne devriez-vous pas bien connaître le droit, nous dit Michée ce matin ? Mais poursuivons. Le deuxième reproche que Michée fait aux chefs d'État, aux responsables, ils détestent le bien et ils aiment le mal. Je suis convaincu que personne dans cette salle répond à cette interpellation de Michée, et c'est plutôt rassurant. Mais à y réfléchir, comment pourrions-nous nous positionner si nous inversons le propos, si nous disons « aimons-nous le bien et détestons-nous toujours le mal ?» J'ai une petite histoire, une anecdote à vous raconter concernant le fait de détester le mal. C'est un éminent professeur de théologie, Jules-Marcel Nicole, qui est décédé maintenant, donc on peut en parler librement, qui a écrit le célèbre précis de doctrine chrétienne que nous utilisons encore comme référence. Il était pasteur et directeur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne et je l'ai côtoyé pendant des années, je le ramenais sur son fauteuil roulant dans son domicile. Et cet homme, alors qu'il était pasteur, il était dans le RER et pour rejoindre Nogent. Et un jour, il a oublié de descendre à Nogent, comme ça peut certainement vous arriver aussi, vous ratez votre station. Et donc, il est allé plus loin. Sauf que plus loin, ce n'est pas le même tarif. Et donc, il a eu un cas de conscience, mais qui n'a pas duré longtemps. Il est descendu à Joinville-le-Pont. Il a racheté un billet pour payer sa station de retour, 2-3 kilomètres, hein, pas plus. Il a racheté un billet pour ça, pour cette petite chose, parce qu'il détestait le mal. Ou alors, pour nous, quand nous parlons et que l'on devrait se taire pour ne pas blesser l'autre qui est en face de nous, est-ce que nous faisons le bien ? Ou à l'inverse, quand nous nous taisons alors que l'on devrait parler, par exemple face au mal ou face à une injustice. Ça pourrait bien être nous, n'est-ce pas ? En tout cas moi, parfois. Et cela nous met en porte-à-faux par rapport à l'amour du bien et la détestation du mal dont nous parle Michée. Donc nous pouvons être concernés. Un autre point, notre reproche pour les dirigeants, c'est ils exploitent le peuple au point de le martyriser, versets 2 à 4. La description des versets 2 à 4, on ne va pas les repasser, mais vous avez pu réagir à la lecture, en tout cas moi ça m'a fait froid dans le dos. C'est vraiment horrible à entendre, les chaudrons, la viande dans les chaudrons, etc. On sait que pendant la dernière guerre, certaines horreurs de ce type se sont bien malheureusement produites. On sait aussi que dans certains pays, de tels drames se sont produits même bien après la Seconde Guerre mondiale. Je ne voudrais pas parler de tous les charniers que l'on a découverts dans un certain nombre de situations sur tous les continents. Bref, cela reste toujours un point de vigilance pour nos États, mais pour nous aussi. L'État, ce n'est pas simplement le responsable de l'État, c'est chacun de nous. Et on peut citer quelques exemples d'œuvres comme Portes ouvertes, qui militent pour la défense de l'Église persécutée. Certaines ONG, comme par exemple l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et aussi d'autres organisations comme Emmaüs, qui s'occupent des personnes qui ne sont certes pas martyrisées directement, mais indirectement dans la société, et qui sont laissées au bord du chemin. Nous devons faire le maximum, chacun à notre niveau, pour lutter contre les injustices sociales. Alors là, c'était les responsables, au sens général. Maintenant, nous avons une autre siège d'accusation, c'est les faux prophètes. Reproche contre les faux prophètes. Pour nous, en France, qui séparons le sacré du profane, qui avons pris l'habitude d'exiger un haut degré de moralité pour ceux qui s'engagent dans le service de Dieu, cet oracle sur les faux prophètes de Michée peut être perçu comme choquant. Si l'on est guère surpris aujourd'hui par l'existence d'abus de pouvoir au niveau des chefs des peuples, on en a parlé, on a de la peine à admettre que les prophètes puissent aussi abuser de leur fonction, de leur métier. Or, pour Michée, il n'y a pas lieu d'opérer cette distinction entre responsable des peuples et prophète. Un abus est un abus, quelle que soit la fonction qui est occupée. Dire la parole de Dieu selon le goût ou les moyens des auditeurs, pour faire plaisir, pour caresser dans le sens du poil, comme on dit, est aussi grave que l'abus et le mépris du droit dont se rendaient coupables les magistrats de l'époque. Mais apparemment, l'argent parlait plus fort que Dieu, et il est vraisemblable que les chefs des peuples dont on vient de parler étaient de connivence avec les faux prophètes de l'époque pour exploiter le peuple d'une manière ou d'une autre. Que faisaient les faux prophètes ? Verset 5. Ils annoncent un avenir rieur, positif à ceux qui les payent bien, et ils annoncent le malheur à ceux qui n'ont pas de quoi les payer. Une honte. Et qu'annonce Michée à leur sujet ? Il ne nie pas que ces prophètes reçoivent des révélations de Dieu, mais il les accuse d'abuser de leur fonction à des fins purement lucratives. Et Dieu va les châtier en leur retirant les révélations qu'ils recevaient et en démontrant par les événements réel le caractère mensonger de leurs oracles, de leurs prédictions. Mais qu'est-ce à dire pour nous aujourd'hui ? Certes, nous ne sommes pas faux prophètes, j'en connais pas, a priori. Un prophète dans la Bible est un porte-parole de Dieu. Et d'une certaine manière, moi qui vous parle aujourd'hui, je suis un prophète. Et si je raconte des choses de travers, je pourrais facilement être taxé de faux prophète. Mais vous aussi, quand vous parlez de Dieu à Jésus, pardon, quand vous parlez de Jésus à vos enfants, à un ami, vous êtes aussi des prophètes. Et j'étais très intéressé de voir qu'il y aura une session sur la formation pour témoigner, pour précisément être un bon prophète. Et ce passage nous pousse d'abord à être vigilants sur nos bases doctrinales. Ce n'est jamais acquis définitivement, en veillant donc à ce que ces bases doctrinales restent bien calées sur la révélation que Dieu nous a donnée dans sa parole, la Bible. Il nous pousse aussi à être honnêtes avec nos interlocuteurs lorsque nous parlons du salut. Le salut passe obligatoirement par la repentance. Et si nous oublions, si nous occultons la nécessité de la repentance, nous délivrons un faux message, un enseignement biaisé. Mais ce n'est pas facile de dire à quelqu'un qu'il est pécheur et qu'il a besoin de repentance. C'est vraiment pas facile. Il y a des situations où on se sent tout petit. Donc, vigilance sur notre doctrine, vigilance sur notre écoute aussi de certains prédicateurs sur les médias, on peut entendre parfois, dont les intentions ne sont pas toujours que bibliques, mais financières aussi, ou autres. Et il nous reste encore deux versets à examiner. Le dernier, le verset 12, qui décrit les conséquences du péché des dirigeants et des faux prophètes, mais aussi du peuple finalement. La promesse qui est là dans ce verset 12, c'est un tas de ruines pour Jérusalem, la destruction. Ça ne plaisante pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun avenir sans Dieu. Il faut le croire et en tirer les conclusions, c'est-à-dire revenir à Dieu. Et enfin, on va parler du verset central, qui est au centre du texte, et qui est aussi central, et qui en plus coïncide avec les prédications récentes sur le Saint-Esprit. Donc ce verset 8, que je vais vous relire, « Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de courage pour dénoncer sa révolte à Jacob et à Israël son péché. » Nous aspirons tous à être remplis de force, du moins je le suppose, je l'espère, mais aussi d'équité, mais aussi de courage dans notre vie en général, mais aussi et surtout dans le ministère que Dieu nous confie à chacun de ses enfants. Tout d'abord, quelle est la source de cette force ? Quelle est son origine ? Eh bien, c'est clairement, Michée nous l'annonce, nous donne son propre témoignage, son propre vécu, c'est grâce à l'Esprit de l'Éternel. Michée ne se met pas en avant, ce ne sont pas ses propres forces naturelles qui sont à l'œuvre, elles n'y suffiraient pas pour faire face aux défis qu'il doit affronter. Pensez donc les chefs de peuple, les faux prophètes, c'est insurmontable par ses propres forces. Mission impossible par soi-même pour un simple homme. Et c'est grâce à l'Esprit de l'Éternel que Michée dispose de cette force, de cette équité et de ce courage. Et il en est de même pour nous aujourd'hui dans les différents ministères et les différents défis que Dieu nous confie. Avons-nous reçu cet Esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint ? Il nous est offert lors de notre conversion à Jésus-Christ. Ça nous a été rappelé par Sylvain dimanche passé. Il nous est offert donc lors de notre conversion à Jésus-Christ. Il nous est offert lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous reconnaissons que seul le sacrifice de Jésus, mort à notre place sur la croix, peut nous délivrer de la mort et nous donner la vie éternelle. À partir de là, le Saint-Esprit vient habiter dans notre vie. Il veut, il souhaite, il aspire à prendre toute la place dans notre cœur. Pourquoi ? Eh bien, pour inspirer nos pensées, particulièrement en direction du bien et du mal, comme on l'a vu. C'est nécessaire que l'on discerne bien qu'on discerne bien ce qui est le bien et le mal. Mais aussi pour inspirer nos décisions, pour pas se décider comme ça sur un coup de tête, hein, pour nous donner du courage. Le sens de l'équité, de la justice pour accomplir notre service et notre mission dans notre famille, dans notre travail, mais aussi, aussi dans l'Église. Mission de parents, mission de conjoint, mission de serviteur, mission d'évangéliste, mission d'enseignant, etc. Mes chers amis, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce cadeau du Saint-Esprit dans notre vie ? Inutile de chercher à remplir un ministère dans l'Église ou ailleurs sans avoir l'assistance du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu dans notre vie, c'est peine perdue. Alors, bon courage dans notre marche avec l'Esprit de Dieu, pour résister au péché et pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur, on veut te bénir pour la richesse de ta parole, pour sa vérité, pour sa cruauté parfois. Elle est très directe, comme on l'a vu dans cette première partie du chapitre 3. Mais Seigneur, c'est la réalité de nos cœurs qui est révélée. Et Seigneur, on te bénit parce que tu nous délivres du péché par Jésus-Christ. Nous voulons placer toute notre confiance en Jésus-Christ pour notre vie. Nous voulons profiter pleinement du Saint-Esprit que tu nous donnes quand nous t'acceptons dans notre vie. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui, aujourd'hui, dans cette salle, n'auraient pas encore fait ce pas de consacrer leur vie, de venir à toi pour leur salut, pour recevoir la vie éternelle. Et Seigneur, le cadeau que tu nous fais, c'est le cadeau de ton esprit aussi. Et nous voulons vivre, Seigneur, de cet esprit. Aide-nous à lui laisser toute la place. Au nom de Jésus. Amen.